I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
La nouvelle du jour, ce n'est pas la chaleur, ça vous le savez. La nouvelle du jour, c'est que pour la première fois, Serge Lémission s'installe sur le port de La Rochelle, au pied de la Tour de la Lanterne. C'est la première sortie de Serge depuis le début de cette émission et c'est un retour au Franco depuis le lancement du magazine, ici même, il y a 12 ans. On n'est pas peu fiers d'être accueillis dans le Café Pollen de ce mythique festival créé par Jean-Louis Foulquier en 1985, car nous partageons avec les Franco pas mal de choses, déjà ce goût d'une chanson toujours en mouvement, ouverte sur le monde et la culture et qui cherche sans cesse à rassembler, à innover, sans jamais oublier d'où elle vient. Serge Lémission au Franco garde sa formule magique entre nouveaux talents et gold indémodable et surtout son équipe chic et choc. Je retrouve mes deux corsaires de la chanson, Didier Varro et Patrice Bardot. Bonjour les amis.
Oui, bonjour Antoine, c'est beaucoup d'émotions.
Voilà. Ah, dis non, là, sa voix se brise.
Bonjour Antoine.
Comment ça va?
Bonjour Patrice. Bah écoute,
bonjour,
ça va.
Didier.
Ça va.
Tu viens de faire une petite folie littéraire, toi,
oui,
à l'autre bout
ça.
De La Rochelle.
Vers la gare, Franco-Océan. Oui. Que dit la chanson de nos sexualités ou de notre sexualité? Ah, je te pose la question.
Vous avez 2 heures.
Vous avez 2 heures.
On remarque que, quand même, Didier vient de briser une routine de l'émission. Il est arrivé en avance. Donc ça, c'est la première fois en 2 ans de Serge Lémission. Il faut le noter.
Il était vraiment temps que Serge Lémission vienne au Franco de La Rochelle pour que Didier soit à l'heure. C'est quand même un.
Bah, finalement, la gare de La Rochelle, le Café Pollen, c'est plus près que la maison de la radio et de la musique, le parc de la Villette. C'est ça aussi.
C'est peut-être ça.
C'est la vie de nos territoires, comme disait Ségolène.
Alors je disais, on va dans cette émission, on va garder notre tradition, c'est-à-dire qu'on aura chacun notre gold. Et ce gold, on l'a un peu customisé, spécial Franco, puisqu'on va raconter chacun un souvenir des Franco. Alors c'est dur de choisir, hein, parce que, je sais pas toi Didier, mais moi j'en ai quand même pas mal des souvenirs ici. Mais il a fallu trancher.
Oui, et puis c'est vrai que finalement, ton choix est assez peu surprenant, et le mien encore moins surprenant.
Surprenant.
Après, Patrice...
Alors, c'est moi qui commence par parler de moi.
On tease.
Mon choix est peut-être le plus surprenant.
Oui, mais quand je vais vous l'expliquer, vous comprendrez tout.
Bien sûr. Et puis, on recevra aussi une partie de l'équipe du festival, Émilie Yakiche et Pierre Poli, pour évoquer cette programmation. Elle a fait l'unanimité quand il s'agit de choisir qui, sur l'affiche, nous allions inviter. Elle vient de sortir un premier EP baptisé Lourd et Délicat. Elle s'appelle Colline Rio. On écoute tout de suite On m'a dit sur le player de la Tsugi Radio, sortez les brumisateurs. Serge Lémission est en direct des Franco. Serge Lémission est en direct des Franco, donc on m'a dit le single de... Alors tout le monde a chaud, faut le dire quand même un peu, notamment les ordinateurs, ce qui n'est pas une météo facile quand on fait de l'informatique.
Je peux aller le ventiler si tu veux.
L'ordinateur, mais Luc aussi peut-être. On rend hommage à
la réalisation de
vaillant réalisateur de Serge Lémission.
Voilà, qui est présent sur toute la tournée des festivals de Tsugi Radio. Alors si on n'a pas le 10 de Colline Rio, je crois qu'on a Colline Rio dans la salle et elle va venir nous rejoindre sur le plateau. peut venir peut-être nous rejoindre sur le plateau le temps qu'on retrouve la chanson dans l'ordinateur. Allez, c'est parti. Colline Rio vient donc nous rejoindre au micro de Tsugi Radio dans cette Serge Lémission. Viens ici. Allez, ici. Hop. Est-ce que. Bonjour, Colline Rio. Hop. Alors un petit casque, voilà, on s'entendra mieux. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur la Tsugi Radio.
Merci.
Alors tu vois, voilà, tu vois l'effet que tu fais à nos machines. On essaie de passer une de tes chansons et
ça
ne marche pas.
Oh non. Bah alors.
Tu es sur scène tout à l'heure, là, dans pas très longtemps, hein, dans une bonne heure.
Oui.
Au Franco, tu es dans la sélection 2022 du chantier des Franco. On imagine que après ton parcours au sein du groupe Inuit, etc., c'est quand même sur son projet perso d'arriver ici, d'être un peu validé par le chantier des Franco et de jouer ici à La Rochelle, c'est un plaisir tout particulier.
Oui, ah oui, oui, vraiment. Bah, je suis particulièrement émue parce que c'est vrai que ces lieux-là, je les ai déjà foulés avec mon groupe Inuit, et je suis vraiment honorée en fait de pouvoir revenir avec mon projet solo, qui est vraiment moi, qui je suis. Et ouais, je suis très émue aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire, quand on vient de Nantes, que La Rochelle, c'est jouer quand même à domicile? Je pose la question parce que pour certains qui ont vécu dans la région, dans ce Grand Ouest, ce Sud Grand Ouest, les francophonies de La Rochelle, c'est un peu comme l'Olympia.
Oh oui, je comprends complètement. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ce festival a une énorme importance. Et comme un Olympia, il y a quelque chose de... C'est un passage qui marque. Et ça, c'est vrai. Il y a le côté très familial que moi, je ressens à Nantes. Quand je suis arrivée à La Rochelle et au chantier des francophonies, j'ai été accueillie comme dans une famille, en fait. Et ça, c'est vrai qu'à Nantes, il y a un peu cette chose-là. Donc la comparaison est très juste.
Patrice Bardot.
Et est-ce que tu te souviens de... Quels sont tes souvenirs un peu perso des Franco? Est-ce qu'il y a des artistes que tu étais venu voir qui t'ont particulièrement marqué?
Oui, complètement. Bah, je me souviens du concert de Gaël Faye. En l'occurrence, avec Inuit, on faisait sa première partie à l'époque et ça m'avait beaucoup marqué. Je lui avais offert un poème que je vais chanter ce soir, qui est une chanson, donc c'est particulièrement symbolique pour moi, j'aime beaucoup. Et j'avais aussi écouté Camille sur le live de Oui, qui était vraiment incroyable. Enfin, la décoration était fabuleuse. Et aussi le concert de M m'avait vraiment touchée avec l'Anomalie, c'était sublime.
Tu étais une habituée, tu venais tout le temps.
J'aime beaucoup les francophones.
Ça doit faire bizarre d'être de l'autre côté de la barrière de la scène.
Bah, la vérité, c'est que je suis vraiment venue que pour jouer. Je suis venue deux fois sur le festival, mais j'avais pu rester la semaine avec Inuit. Et là, je reste également la semaine, donc c'est un vrai cadeau.
C'est ça fait ça. Souvent, moi, je devais venir pour aujourd'hui et je devais repartir demain. Je reste jusqu'à samedi. C'est l'effet franco.
Mais c'est la bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour mon état.
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que tu ne lis pas mes textos parce que je te l'avais dit. Luc Leroy a réparé l'ordinateur. Je voudrais qu'on écoute On m'a dit, qui est un des titres extraits de cette EP de Colin Rio, lourd et délicat. Allez, on y croit.
On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse. Tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends ta voix. Tu sais, les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça. Faut durcir, on t'écoutera pas. Je veux me montrer nu devant vous. Je ferai tomber les bijoux. Ce soir, je
les boucles de Colline Rio sur la Tsugi Radio pour Serge, l'émission en direct des Francofolies de La Rochelle. Ça s'appelle On m'a dit. Je voulais qu'on écoute cette chanson. Il y a une jolie colère, j'ai envie de dire, dans cette chanson. Tu dis, il faut que tu brûles, que tu nous allumes, faut changer Colline. C'est vraiment des mots qu'on t'a dit, ça, quand tu as commencé à vouloir faire de la musique et de la chanson?
Alors, c'est des choses que j'ai entendues, mais au-delà de la musique, en fait. C'est une histoire de, je pense, personnalité et façon de se présenter à la société, où j'ai eu l'impression d'avoir été pas mal secouée dans « mais réagis, sois là, parle plus fort, on t'entend pas », ou « montre-toi, t'es caché sous ta frange ». Enfin, beaucoup de choses vis-à-vis de mon physique et de comment j'étais, ma posture, en fait, en société. Et cette chanson, elle parle de tout ça et de juste une envie d'être qui on est et de s'affirmer. Et j'ai mélangé aussi beaucoup de choses que j'ai entendues autour de moi sur des femmes, des filles, des copines... On est, ouais, enfin après voilà, c'est une expérience, c'est un mélange de plein d'expériences vraiment vécues, ouais.
Et ça sert à ça pour toi, la chanson aussi, à désamorcer des peines, des frustrations, des colères?
Oui, bah complètement. Et c'est surtout que cette chanson, en l'occurrence, elle est vraiment venue instinctivement. Donc elle m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai créée. Et pourtant, je m'étais pas posée en me disant, ok, là, il va vraiment falloir que je parle de ça parce que j'en ai lourd sur la patate, lourd sur la patate. Elle est venue d'elle-même et sur le coup, bah, j'avais chaud, j'étais à fond et ça m'a procuré beaucoup d'émotions et je me suis dit, bon bah yes, si ça peut libérer des choses, libérer des paroles aussi, bah, c'est tout bénef. Mais en tout cas, l'idée, elle était juste à moi de me faire plaisir au moment où je l'ai écrite.
Patrice Bardot.
Et tu voulais faire passer ces messages en français, puisqu'avant tu chantais en anglais majoritairement. Pour toi, c'était plus facile de faire passer ces messages en français. C'est devenu une évidence. Qu'est-ce qui a fait la bascule?
Alors, à l'origine, j'ai toujours écrit en français. J'ai commencé à écrire assez tôt et à vouloir me lancer dans la musique très clairement. Dès le collège, je savais que je voulais faire ça. Et j'ai toujours écrit en français. Et en fait, quand je suis rentrée dans le groupe Inuit en 2015, c'était des garçons que je connaissais déjà et on a commencé à composer tous ensemble et tous, enfin, on avait envie d'écrire en anglais parce que c'était vis-à-vis du style musical qui était d'électro et c'était beaucoup plus dans l'origine de ce qu'on voulait défendre. Mais le français pour moi était là depuis le début, donc en fait quand je suis revenue sur mon projet solo, c'était normal. D'accord. C'était évident, je me suis pas posé de questions, c'était déjà là en fait.
D'accord. Didier.
Mais justement, est-ce que le fait de passer d'une aventure en groupe à une aventure solitaire plus que solo, finalement, c'était pas aussi une manière de s'incarner réellement dans ce qu'on est, c'est-à-dire en parlant déjà avec sa langue maternelle et en plus en parlant de ses fracas intimes, en fait?
Mais complètement. Complètement, c'était mon moyen d'être le plus juste possible et c'est ce qui m'est venu naturellement et je l'ai écouté et c'est ce que j'ai voulu vraiment faire sur ce projet, sur ce premier EP, c'est écouter mon intuition première qui était « j'ai besoin d'être douce, là ». J'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de dire des choses. Et je vais m'écouter, je vais le faire, vraiment. Et c'est ça ce qui s'est passé, ouais.
Tu penses que, bon, tu dis solo, mais est-ce que tu penses qu'il y aura un retour vers Inuit ou bon, le fait que maintenant t'es lancé en solo, t'as plus trop envie de revivre une aventure collective ou quelle est...
Ah bah, avec les gars, on est tous hyper copains, on a tous très envie de continuer. Là par contre je me focalise sur mon projet, c'est sûr, mais l'aventure Inuit elle est pas terminée, le groupe il est pas terminé, là on va faire on a été invité pour les escales cet été et on va se retrouver sur la scène, ça va être trop chouette et j'aime énormément les deux univers, je suis autant énergique et folle sur Inuit que douce et calme sur mon projet, c'est cette dichotomie que j'ai envie de garder aussi, que je dis dans On m'a dit et que j'aimerais pouvoir vivre aussi sur scène, voir si on peut cohabiter avec deux projets, ce serait super.
Mais c'est vrai que la douceur, c'est pas quelque chose qui colle bien avec l'époque en ce moment, que ce soit les réseaux sociaux ou évidemment l'actualité, etc. Et il y a une forme d'affirmation aussi de dire, de revendiquer cette douceur. C'est aussi ça que tu veux montrer, quoi. On peut être douce et être là, être présente, être entière et être une personnalité forte et affirmée.
Bah complètement. Bah oui, j'espère. Enfin, c'est le message sans que j'ai voulu faire ce message-là et simplement voilà, être qui on est. Et ça peut être aussi, en effet, dans la violence, dans la brutalité, dans le côté plus rock, plus affirmé, mais aussi la douceur, on a le droit de l'entendre, et c'est pas parce qu'on parle moins fort qu'on n'est pas entendu, c'est sûr, ouais, il y a de ça.
Il y a aussi un côté très électroacoustique à la production. Tu as travaillé avec Stan Neff, qui a travaillé avec Christine and the Queens, Camille justement aussi, ou Polo et Pan. Il y a un subtil équilibre, je trouve, dans les arrangements entre des choses très acoustiques, on entend les souffles des instruments, les bruits, les doigts sur les cordes, etc. Oui. Et de la production électronique. Vous avez vraiment placé ce curseur avec finesse, on a l'impression. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez travaillé sur les maquettes de tes chansons, Colin Rio?
Ben, en fait, ce qui a fait aussi que j'ai dit go avec Stan et qu'on a été vraiment très fusionnels, c'est que quand il a écouté mes chansons et qu'il est venu vers moi, il m'a dit vraiment, je ne veux surtout pas te transformer et je veux qu'on parte de tout ce que tu fais sans dénaturer quoi que ce soit. Et c'est ça notre base et c'est déjà très bien comme ça en fait. Et il a été touché par ça en fait. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, waouh, déjà incroyable. Et vas-y, on y va. Et donc l'idée, ça a été de réenregistrer ce qui était à réenregistrer, d'aller dans la finesse, la douceur et mélanger, c'est ça, des sons acoustiques et électro. Ouais.
On parle beaucoup de douceur depuis le début de cet entretien. Il y a une chanson, je crois, qui donne le titre à ce EP, qui clôture d'ailleurs le EP. C'est Lourd et délicat, qui est vraiment une chanson, c'est celle que j'ai choisie quand Antoine m'a demandé, m'a suggéré. Il y a ça aussi, il y a lourd et délicat, c'est ce jeu dans les contrastes. On parlait de douceur tout à l'heure, je pensais à la douceur du danger aussi. Donc, cette tentation d'être quand même dans une vérité âpre tout en gardant la légèreté ou la délicatesse.
Oui, complètement. Bah, en fait, il y a une vraie dichotomie dans lourd et délicat et dans on m'a dit aussi, parce que je le dis pas de manière très douce, enfin douce avec ma voix, mais j'avais envie qu'il y ait du kick, qu'on puisse danser dessus. Et je chante grave en plus, donc on peut se dire, bah d'accord, mais du coup tu chantes pas aigu. Je chante aigu sur les refrains, mais sur les couplets je suis dans ma voix grave, parce que ça me plaît. Et c'est en fait, j'ai envie d'être qui je veux être, j'ai envie d'être les deux, je veux pas être par contre qu'une seule chose.
Face A, face B.
Ouais, exactement, c'est ça. Et lourd et délicat, ça parlait de la tachycardie, et de la douceur de la palpitation et en même temps de la lourdeur que ça provoque d'en faire, de faire de la tachycardie, parce que ça crée, moi je suis sujette à ça et je peux faire des crises d'angoisse quand j'en ai, et pourtant la palpitation elle est très très légère et c'était ce truc là en fait.
Patrice.
C'est cette musique électronique qui est en filigrane qu'on entend chez toi, qu'on entendait aussi chez Inuit, hein, on comparait souvent un peu à LCD Sound System, elle vient d'où?
Alors
c'est
là,
quoi tes bases électroniques?
Je pense que déjà l'acoustique, c'est sûr que ça vient de là où j'ai grandi, parce qu'il y a énormément de chansons françaises et de musique du monde et beaucoup d'instruments acoustiques. Et ensuite l'électronique, c'est parce que je suis très curieuse et que j'ai écouté beaucoup de choses. Et quand on a fait le groupe Inuit, bah, y avait que de l'électro en fait, à part les percussions et la voix. Et j'ai plongé, enfin les gars ils m'ont appris énormément, ils m'ont fait une culture énorme de l'électro qui a été encore plus poussée que ce que j'avais fait. Et bah, j'ai découvert un univers que j'adore encore aujourd'hui et que je veux garder dans... ça fait partie de moi. Voilà.
Y a aussi, quand on se penche sur ton univers, Colin Rio, des gens que tu cites, par exemple Kate Tempest, vous avez le théâtre en commun, tu as fait un peu de théâtre. La scène, ça a toujours été un endroit que tu avais voulu explorer depuis toute petite?
Oui, complètement. Je me suis toujours sentie bien sur scène, étonnamment, alors que je suis plutôt quelqu'un de réservé et moins timide quand je connais les gens, mais au début, voilà. Et le théâtre, la danse aussi, beaucoup, c'est des endroits où je me sens bien et qui me font beaucoup de bien. Ouais. Et Kate Tempest, moi j'ai été complètement fan des Nouveaux Anciens. C'est un petit livre comme ça que j'ai souvent et que je lis beaucoup. Et voilà, ouais, j'aime beaucoup cet artiste.
Oui, parce que voilà, c'est une dramaturge, c'est aussi une slameuse ou une musicienne.
C'est devenu un.
Et c'est devenu un, voilà.
Oui, c'est bien d'essayer de le faire.
C'est devenu un, tout à fait.
Enfin, Antoine.
Non, mais attends, c'est normal.
C'est pas le seul. Hein.
C'est pas le seul, tout à fait.
La scène, donc, et puis, ce serait qui tes références dans la chanson française que tu as écoutée ici, dans un lieu où quand on rentre dans les Franco, il y a toutes ces photos de tous les artistes incroyables qui ont joué sur cette scène. Qu'est-ce qu'il y a, Didier?
Non, je dis que tu parles avec les mains,
oui,
comme
c'est
moi.
Très expressif, non mais j'adore. Hein. Je suis pareil.
Ça fait de l'aération, c'est bien.
On fait des chorégraphies tous ensemble.
Alors, qui ce serait les gens importants dans ton univers?
Une personne importante qui en plus est une figure des francopholies, c'est Jacques Higelin, que j'ai beaucoup écouté. Et il a un live incroyable qui a été fait ici. Et, beaucoup. Ça, c'est une vraie référence pour moi. Et son fils aussi, Arthur H, l'ai beaucoup écouté. Donc une belle famille d'artistes. Et je disais tout à l'heure Barbara, il y a également Jacques Brel, Serge Reggiani, donc beaucoup, et encore une fois Gaël Faye, parce qu'il a joué là également, donc je le recite. Mais voilà, beaucoup, il y a énormément de chansons françaises, musique du monde également, enfin un gros mélange de tout ça.
Patrice,
ce qui frappe à l'écoute de ton EP, c'est que vraiment on dirait que t'es en dehors un peu de notre temps pour créer ton temps à toi. C'est vrai que voilà, il y a une personnalité, on peut pas vraiment faire des comparaisons, ce qui n'arrive pas souvent. C'est vrai qu'on peut pas être souvent dans les jeunes artistes aujourd'hui. Il y a quand même ce fond un peu électronique, urbain, on va dire, pour pas dire hip-hop. Et là, toi, il y a beaucoup d'influence, tout ça, mais pour en ressortir ton propre langage. Il y avait une recherche personnelle là-dedans.
Je trouve ça super chouette d'entendre ça. En même temps, c'est vraiment très bien aussi d'avoir des influences, des artistes qui viennent tout de suite. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que j'entends que tu as entendu une personnalité, une entité propre et originale. Et c'est le plus beau compliment, franchement. Je pense pas qu'il y ait de recherche, parce que de toute façon, on fait comme on est.
Didier ?
Moi, je voudrais poser une question un peu intime à quelqu'un qui fait donc de la tachycardie. Comment on fait pour répondre à une interview une heure avant de monter sur scène?
J'ai dit plusieurs fois à mes équipes, à 17h, il faut vraiment que ce soit terminé parce que du coup, j'ai besoin de me préparer avant. Je prépare en étant sûre d'avoir une heure devant moi. Et j'ai besoin de me poser.
Voilà, cette heure, elle est peuplée de quoi? De silence, de gris-gris, de...
J'ai mes habitudes.
De rituels?
Oui, j'ai des petits rituels. Déjà, je m'échauffe à chaque fois, la voix. J'ai vraiment besoin de m'échauffer pour être sûre d'être bien avec ma voix. J'ai besoin de calme. Et je me maquille un peu les yeux. Là, j'avais déjà commencé pour les interviews, mais je ne suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Mais je me maquille avant de monter sur scène parce que ça me pose, je me concentre sur quelque chose, en fait. Je me concentre sur mes yeux. Et j'aime bien faire des câlins à mes équipes, aux gens autour de moi, parce que c'est de la chaleur humaine. Voilà, j'essaie de me sentir bien parce que je suis quelqu'un de très stressé avant de monter sur scène. Je peux être malade, je peux vraiment pas aller bien, mais c'est toujours génial, donc c'est pour ça que je continue.
Est-ce qu'il y a une personne ou des personnes en particulier à qui tu penses quand tu rentres sur scène?
Oui, j'ai tendance à penser à mes parents et à ma famille, en fait à mon frère aussi. Je suis très soudée et j'ai beaucoup d'amour envers ma famille, et c'est des gens qui me portent et qui me font confiance depuis que je suis petite. Donc ils sont là, ils sont toujours là près de moi.
Et sur scène, du coup, les gens qui vont avoir la chance de te voir tout à l'heure, donc je dis que je dise pas de bêtises, au Théâtre Verdière.
Oui, Théâtre Verdière.
Juste avant Barbara Pravi, quelle est ta formation sur le projet Colinario?
Alors je suis avec une violoncelliste. Je suis au piano et on envoie des séquences. En fait, on a des pédales de looper au pied. J'en ai en avant-scène et elle en a pas mal à son espace violoncelle. Donc, on s'amuse à lancer comme ça avec nos pieds. Donc, on voit pas forcément quand les séquences arrivent, et ça, j'aime bien, ça peut surprendre. Mais voilà, ça va être violoncelle, voix, piano, séquence.
Et tu joues là avant Barbara Pravi. Je pourrais citer aussi pas mal d'artistes féminines qui sont programmées cette année au Franco.
Oui.
Mansfield Tia, Marie-Flore, Juliette Armanet, Angèle, Zao de Sagazan, etc. Les femmes, on les entend plus et c'est un peu plus facile aujourd'hui. Tu te sens un peu entourée d'autres femmes artistes qui tracent le chemin, de Clara Luciani qui réouvre deux Bercy, etc. Ça change un petit peu selon toi?
Complètement. Là, c'est depuis, j'ai l'impression, des deux dernières années, même un peu plus, parce que j'arrive plus à compter avec les années Covid, donc je dirais quatre dernières années. J'ai vraiment l'impression que ça a beaucoup changé. En effet, on l'observe, il y a de plus en plus de femmes présentes sur scène, pas que en tant que chanteuse, et aussi dans les équipes, il y en a de plus en plus. Et c'est juste super, c'est agréable. En fait, c'est bien qu'il y ait des femmes, c'est bien qu'il y ait des hommes. C'est chouette de se rendre compte, en tout cas, qu'on est presque à égalité. C'est sympa.
Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à un nouveau courant de la chanson française? Est-ce que tu as des...
Je sais pas.
Tu te sens relié à certains artistes?
Oui, par contre, voilà, je sens une énorme solidarité entre artistes, et ça, c'est génial. On est très copines et copains. Quand on se rencontre, on est solidaires. Il n'y a pas de différence forcément entre un artiste qui a vraiment eu un gros parcours. Il y a beaucoup de générosité. Enfin, franchement, je suis assez épatée à chaque fois que je rencontre un artiste. C'est la simplicité des gens, la bienveillance. C'est génial, donc, comme faut que ça continue.
Sans doute plus que les générations précédentes, j'ai l'impression. C'est vrai qu'avant, il y avait
clairement
ce côté un peu rivalité, concurrence qui était là, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de nouveaux artistes. Mais on sent qu'il y a quand même une unité, comme tu dis, une bienveillance, parce qu'aussi, peut-être, c'est les temps sont durs, hein, donc on a besoin de bienveillance.
Complètement.
Ouais, puis on peut peut-être changer les codes du show business. Maintenant qu'une nouvelle génération est en train de monter et de prendre le pouvoir, on n'est peut-être pas obligé d'abuser de la concurrence. Merci beaucoup, Colline Rio, d'être passée par le micro de l'Atelier Radio, si près de ton concert.
Il te reste 5 minutes encore, il est 16h55.
On te laisse aller te concentrer. On va écouter Balour et Délica, qui a donné son titre à l'EP que tu avais choisi, Didier. Oui. Tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi celui-là, toi?
Parce que je trouve que c'est ce qui finalement définit le mieux à travers cette EP l'univers de Colline Rio. J'ai vraiment l'impression de la reconnaître dans ce titre, que ce soit dans la façon de produire le titre, mais aussi dans ce que ça raconte et cette espèce de côté bicéphale qu'il y a en elle, qui me touche beaucoup.
Quand vient le soir, j'entends qu'il bat lourd et délicat à la fois. Il résonne dessous mes draps. Quand vient le soir, je sens son pas lourd et délicat à la fois. Il cogne dessous mes draps. Quand j'appréhende, il accélère. Il grogne dessous. Thank you.
je regarde l'horizon. Je ne vois plus une saison. Tout se délie, se déplace. Le temps fait volte-face. Je reste figée comme cette année où je t'ai perdue. Je regarde l'horizon. Mon cœur ne trouve plus la raison de battre fort et de lutter contre vents et marées. Je rêve un mouvement, j'en vis un présent de liesse et de chant, tes bras m'entourant.
Pauline Rio sur la Tsugi Radio, cet extrait, on a enchaîné comme ça parce qu'on est comme ça, lourd et délicat, et Horizon, extrait donc de cette EP. Et Pauline Rio qui est tout à l'heure au Théâtre Verdière à La Rochelle en première partie de Barbara Pravi.
Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
Alors dans Serge, on aime la découverte, mais dans Serge, on aime les classiques. Donc on va se faire trois souvenirs chacun des Franco. Voilà, le premier souvenir, le premier à s'y coller, c'est notre ami Patrice, parce que c'est peut-être celui qui est le moins allé, hein, finalement, et le moins venu ici à La Rochelle. Mais on a tous des souvenirs très forts de ce festival. Alors tu as choisi une artiste, encore une chanteuse.
C'est très particulier hein, ce choix, parce que c'est vrai que j'ai peu été au Francofolie pour des raisons qui me sont propres. Hein.
Mais oui, mais j'ai envie de te poser la question ce soir. Moi, je fais
pourquoi
un premier
en fait
Dumas,
simplement parce que dans ma vie de journaliste musical, souvent
juillet, on ferme.
À cette période-là, je n'étais pas disponible.
Et tu te remettais en vacances, tu te remettais d'Astropolis
ou en bouclage, où j'allais dans le sud, exactement.
Ouais.
Et donc en 2010, voilà l'année 2010, une grande année. Puisque c'est le lancement de Serge, et il y a pile 12 ans aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est également le 13 juillet 2007 qu'on a lancé Tsugi, c'est-à-dire l'idée de Tsugi est née le 13 juillet 2007.
On
m'a coupé mon micro.
Non, voilà, ça va, c'est bon.
Donc c'est l'émotion. Donc le 13 juillet 2010, donc on a lancé Serge au Franco. Il y avait sur les écrans des spots qui étaient réalisés par nos amis de l'agence de pub de La Chose. Et c'est vrai que Gérard Pont nous avait autorisé, nous avait ouvert les écrans des Franco pour diffuser ce spot qui a lancé cette aventure, on va dire.
Et puis tout le monde était en t-shirt Serge.
Tout le monde en avait distribution, grosse distribution de t-shirt Serge. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi elle qui, cette année-là, jouait au Théâtre Verdière.
Elle, Raphaël Nader.
Elle, Raphaël Nader, voilà, qui était, qui commençait un peu à monter. Elle venait de faire son premier EP. Et donc c'est vrai que je l'ai vue. Donc et c'est vrai que j'ai trouvé, elle était bouleversante scéniquement. C'est vrai que je le savais discographiquement, on va dire, avec ce EP. Et puis bon, elle l'a confirmé après avec son album initial. Et elle allait faire aussi, un an plus tard, la couve de Serge, en compagnie de Nolwenn Leroy et de Zaz, une couve assez sensationnelle qui a fait aussi parler. Un peu comme la couve de Télérama avec elle, Raphaël Lanader, qui célébrait un peu une artiste qui a fait sensation et ouais, c'était sensationnelle.
C'était une de Télérama, c'était la chanson française, c'est elle, pardon. Voilà, on voulait dire la même chose, Didier. Voilà.
C'est un peu lourd, hein, ça a été lourd à porter. Hein.
De quoi?
Bah, cette
couve de Télérama.
Bah, c'est toujours un peu lourd, les couvertures de Télérama. Non, mais c'est vrai, parce que forcément, tu rentres dans le Panthéon, et si on te reconnaît comme... Ça avait été lourd aussi, je pense, et à double tranchant pour Dominica sur les In Rock.
Oui.
Dominica, la chanson française dont vous n'aurez pas honte.
C'est ça.
C'est des titres comme ça qui te font entrer dans une histoire de la chanson française, mais qui après peuvent être un peu lourds à porter.
C'est super, mais d'un autre côté, on se trimballe une certaine réputation, une pression pour des jeunes artistes comme elle. Ouais. Mais bon, voilà. Mais depuis, elle a quand même tracé sa route. Elle a chaque fois sorti des albums que je trouve assez formidables, hein, qui étaient chaque fois très très différents. Elle s'est renouvelée un peu à chaque album. Elle fait aussi des expériences mêlant la poésie, la musique. Donc voilà, donc j'ai choisi Château Rouge, une chanson qu'elle a écrite elle-même, qu'elle a écrite et composée.
Sublime chanson.
Et extraite de son premier album, Elle, sur la Tsugi Radio, en direct des Francofolies de La Rochelle.
Château Rouge, la nuit
Elle sur la Tsugi Radio en direct du Café Pollen des Francopholies de La Rochelle. Elle jouait, elle qui jouait, je me souviens de ce concert, voilà, au théâtre, oui, dans La Rochelle. Les Franco, c'est toujours aussi un écrin assez fou pour révéler des artistes comme ça, parce qu'il y a à la fois cette grande scène, voilà, cette grande fête populaire avec voilà des artistes comme Mika, Calogero, et puis les trois salles du théâtre Verdière et de la Coursive qui permettent de proposer aussi des concerts assis, posés, oui, pour des choses un peu délicates.
Cadre, ouais, un cadre assez incroyable, hein, je trouve, ce théâtre Verdière là. C'est vrai que c'est pour des artistes, je pense que aussi c'est bien pour eux de jouer dans des espaces comme ça. Même...
Alors je vais faire mon vieux tonton de l'histoire, c'est que le théâtre Verdière n'existait pas quand les Francopholies se sont créées. Il y avait le théâtre de la Coursive et la petite salle bleue qui existe, ouais, toujours,
qui existe toujours,
et qui était vraiment la salle des artistes émergents qui débutaient. Et effectivement, déjà, la Coursive, c'était pour des artistes
plus confirmés.
Plus confirmés. Et c'est vrai que ce théâtre Verdière amène plus de choix et plus de, oui, d'incarnation aussi au dispositif du chantier des Francopholies, puisque, ouais, ces artistes-là se produisent à la fois au théâtre Verdière et puis font une apparition sur la grande scène Jean-Louis Foulquier entre deux concerts. Ça, c'est une tradition que Foulquier avait créée en son temps et que Gérard Pont et ses équipes ont repris pour le chantier des Franco.
Alors, dans cette Serge l'émission, donc chacun son tour, on va raconter un souvenir. Didier Varro te demandait de trouver un souvenir ou raconter un souvenir des Francopholies, ouais, de La Rochelle. C'est un peu te demander de raconter tes mémoires.
Oui, donc ça prendrait du temps. Hein,
donc ça pourrait prendre du temps. Il y en aurait tellement parce que moi, j'ai quand même envie de rappeler que quand tu travaillais dans ce festival, tu as aussi organisé des soirées. Il y a eu des soirées au Futuroscope, qui, voilà, qui est pas à la porte à côté, mais ça faisait partie des Franco, où Laurent Garnier avait mixé. Il y a aussi des soirées en bas du Casino Barrière, qui est un petit peu plus haut, le long du chenal, où tu avais fait mettre du sable pour faire une vraie plage. Et tu avais amené, comme à ton habitude, un peu mis le verre dans le fruit, amené le virus de la danse dans ce festival de chansons.
Oui, avec parfois du succès, puis parfois... Aussi, ça fait partie des grands souvenirs, des méga-tôles, notamment la première soirée électronique sur la scène Jean-Louis Foulquier, qui s'appelait la scène Saint-Jean-d'Acre à l'époque, puisque Jean-Louis était encore de ce monde, et où j'avais décidé de faire de terminer avec une scène française électro. Et je me souviens de Pac-Man, qui était donc Jérôme Pac-Man. Et ouais. Bon, et qui a dû jouer devant, allez, 150 personnes devant
cet espace qui peut avoir un cahier 17 000.
Oui, entre 12 et 17 000.
C'est pas toujours évident de créer la nouveauté.
C'est hyper violent, ouais, c'est hyper dur. Et je me souviendrai toujours de ce que m'a dit Robert Bialek, qui était le manager de Daniel Balavoine, qui était venu dans les premières années de ce festival comme un compagnon de route, puisque Balavoine devait faire son grand retour avec l'album L'Aziza ici. Et il m'avait regardé, parce que j'étais détruit de voir, d'abord il faisait un temps de merde, 150 personnes, des gens très contents que ça se plante quand même, il faut bien le dire. Et il m'avait regardé avec son air un peu narquois et en même temps tellement bienveillant, et il m'avait dit: Didier, ici c'est la Mecque. Et je l'ai regardé, et oui, à ce moment-là j'ai dit bah oui, et il avait bien résumé, c'était la Mecque de la chanson française. Et quelque part, c'était aux artistes eux-mêmes d'évoluer avec des éléments électroniques qui pourraient amener peut-être des générations successives à apprécier d'autres musiques que la chanson française.
Mais on voit qu'aujourd'hui, avec la programmation, que tu as eu raison, puisque ce soir, on va se régaler en allant écouter Ento
et French 79,
et vous allez faire découvrir Gargantua.
Voilà. Donc ça, ce sera à la Sirène, et puis même, on se souvient de concert de Rhône, ici, il y a quelques années, Rhône qui avait terminé une nuit ici, il n'y avait pas 150 personnes, et c'était un beau moment. Mais il y a un autre très très beau moment des Franco que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui, Didier. On part en 1990.
Oui, c'est probablement un des moments les plus dingues de l'histoire des Francopholies. C'est Barbara. Barbara qui était invitée par Foulquier. Alors, il faut quand même faire un petit peu d'histoire. Barbara refusait de chanter en plein air. Elle avait fait quelques dates en plein air dans les années 60 et au début des années 70, mais elle détestait ça. Donc, Barbara, c'était la chanteuse des théâtres et des fauteuils rouges. Et quand Foulquier crée son festival en 85, tout de suite, il harponne Barbara en lui disant « Je voudrais que tu viennes chanter aux Francofolies ». Et Barbara lui dit « Tu as beaucoup de charme et tu es irrésistible, Jean-Louis, mais jamais je ne viendrai chanter dans ton festival parce que c'est en plein air ». Et il aura fallu beaucoup de détermination. Je ne sais pas ce qui s'est passé au bout du bout, mais en tout cas, Barbara a fini par accepter en 90 de venir chanter aux Francofolies, probablement par solidarité aussi avec Jean-Louis Foulquier, parce que le festival vivait un moment un peu difficile économiquement. Et donc, du coup, elle a accepté. Et alors, manque de peau, parce qu'il faut quand même le dire, il faisait la même chaleur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une chaleur de bête. Et quand Barbara a accepté les Francofolies, elle s'est dit, bon, en plus, on sera au bord de la mer, à La Rochelle, il ne fera pas très chaud. En fait, il faisait 38 degrés, quoi, comme ce soir. Et donc, du coup, Barbara, quand elle arrivait dans les théâtres, ou donc aux Francofolies, arrivait le matin. Donc, elle était là à 10h du matin, avec cette chaleur de bête qui vraiment assommait tous les techniciens. Et elle était sur son rocking chair, attendant que les techniciens veuillent bien travailler pour sa balance. Et donc, elle allait de son rocking chair, puis elle descendait de la scène pour aller sur l'espace du Saint-Jean d'Acre, parce qu'elle aimait sentir les énergies avant même de donner son concert. Et elle ne quittait pas la scène. C'est-à-dire qu'elle avait une loge de l'autre côté, mais elle, sa loge, elle était attenante, elle était à jardin sur scène. Donc c'était incroyable ce moment de voir Barbara comme ça, comme un fantôme dans ce cagnard-land qui comme ça trimballait ses émotions toute la journée. Et puis elle balançait 10 minutes, elle revenait sur son rocking chair, elle repartait 10 minutes à son piano, elle faisait des ha-ha, et c'était hallucinant quoi, de voir ça. Et puis surtout, le site était interdit aux journalistes et à tous les professionnels, parce qu'elle voulait vraiment être en solitude avec cet espace. Et donc, j'étais privilégié, parce que Foulquier m'avait emmené pour regarder, en fait, cette longue dame brune arpenter, prendre possession de cet espace. L'anecdote est un peu longue, parce qu'il y a un deuxième truc. Elle ne voulait jamais de première partie, normalement, quand elle faisait ses concerts. Là, il y avait une première partie, c'était un artiste qui était l'équivalent des artistes du chantier, Arthur H. Ah. Et donc, elle avait dit, mais évidemment, j'accepte que ce soit Arthur qui soit en ouverture de cette soirée-là. Et Arthur H.
était quand même sympa. Hein.
Était, à l'époque, Espoir Coca-Cola. Ah. C'était donc le sponsor du festival.
Toujours, je vois et d'ici donc, un parasol pack Coca-Cola.
Barbara voyant des bannières à jardin et à cour, des immenses bannières Coca-Cola, dit « Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas chanter avec Coca-Cola. » Donc, elle a fait descendre les bannières du partenaire exclusif du festival. Vous imaginez comme si tout d'un coup, on disait « Non, Crédit Mutuel, là, vous dégagez. » Hop, 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 hop.
Surtout pas, surtout pas.
Donc, c'est hallucinant. Donc, Arthur a joué dans une ambiance qui était celle d'un théâtre, parce qu'elle voulait recréer cette ambiance-là. Et troisième anecdote, et j'en finis là, Jean-Louis avait demandé au public de venir avec une rose.
Ça, c'est une image incroyable. Cherchez les photos, quoi.
Et donc, l'idée, c'était de recréer, au moment où Barbara arriverait sur scène, un champ de roses, de 12 000 roses, qui, tout d'un coup, accueillait Barbara. Et je peux vous dire que quand elle est arrivée, j'en ai encore les frissons qui transparaissent de ma transpiration, c'était un moment absolument incroyable. Normalement, on savait que c'était un moment historique de voir Barbara en plein air devant 15 000 personnes, mais en plus, cette image-là de ce champ de roses qui tout d'un coup apparaissait, voilà, ça reste un des très grands souvenirs.
Allez, on écoute un petit extrait de Perlimpinpin. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement de ces franco, mais c'était au live à Pantin en 1981. Barbara sur la Tsugi Radio. Barbara sur la Tsugi Radio, si l'ordinateur n'a pas trop chaud, peut-être. Sinon, on va continuer à raconter des souvenirs.
Oui, bah ça, je crois que Didier, il peut en raconter. Mais est-ce que Barbara a fait d'autres festivals en plein air à part les Franco?
Alors, elle a fait le festival de Ramatuelle, qui est donc un théâtre de verdure.
Alors, taille, petite taille.
Beaucoup par rapport, plus petit. Oui, voilà. Beaucoup plus. Mais sinon, non, c'était pas son truc dans la vie de faire les festivals. D'ailleurs, elle est d'une époque où il n'y avait pas de festival.
Oui, il n'y avait pas de festival.
Oui, c'était pas vrai, en tout cas, moins qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas difficile.
Bourges, elle a peut-être... Non,
jamais.
Bon, d'accord.
Alors, si on n'a pas le disque de Barbara,
on va le chanter. C'est Perlimpinpin que j'avais choisi. Alors, enregistrement de 1981 à Pantin, qui est quand même
fabuleux.
Le concert culte 80. De Barbara.
Ah, vas-y, Luc, comme on fait
vas-y, Luc, fais chauffer Barbara.
Ah. On l'entend. Elle est chaude.
Contre qui, comment, contre quoi, t'en est assez de vos violences. Où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. C'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocents. C'est abominable d'avoir pour ennemi le rire de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous, et c'est bien, et pour une rose entrouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne.
Barbara sur la Tsugi Radio, petit extrait de Perlimpinpin pour illustrer ce souvenir incroyable de Didier Varro. Mais moi, ces images de champs de roses, moi, le jour où j'ai vu ces images, ma vie a changé. Parce que vraiment, c'était tellement la bonne idée pour accueillir Barbara.
Ouais.
Puis les roses rouges ont en plus une signification toute symbolique auprès de Barbara.
Exactement.
On connaît son parcours.
Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers d'autres. Bref, les grands soirs, c'était il y a longtemps.
80.
Juste, cher Antoine Dabrowski, quand tu nous as demandé de réunir les morceaux de notre mémoire défaillante, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai beaucoup hésité entre Barbara, tu imagines, et une autre chanteuse. Mais comme je savais que ce souvenir-là t'appartiendrait, passé mon tour. Mais
on est obligé de passer notre tour. Hein. Cette chanteuse-là.
Après, je me demandais si tu n'allais pas choisir le concert des 20 ans ou des 15 ans des Franco où tu avais mis toute la chanson française dans un bus.
Non, pas un très bon souvenir, ça.
Non, parce que c'est vrai que moi, des souvenirs des Franco, on en a plein. Moi, je pense à Gaëtan Roussel qui sera là ce soir, hein, qui avait refait l'album Play Blessure que Gainsbourg avait fait avec Bachung. Je pense un interminable, quoique réjouissant, concert de Jacques Higelin. Il y a eu aussi Phoenix, Woodkid, Lescope. Une tempête aussi qu'on a vécu ensemble, qui avait forcé à annuler la soirée du festival et qu'on avait récupéré un François Agni Atlas Mountain tout triste de ne pas jouer sur la grande scène des Franco.
Oui, surtout que c'était le régional de l'État,
bien sûr, voilà, qui est de Sainte. On avait terminé l'émission pour France Inter dans le car régie où Jeanne Chéral était littéralement assise sur tes genoux, hein, je me souviens, et que Laurence Bloch a amené le coca, l'ancienne directrice de France Inter qui me suivait. C'était quelque chose. Je me souviens aussi du jeune Vianney avec sa guitare qui faisait les interplateaux sur le proscenium. D'ailleurs, je pense que c'était le même soir que IAM qui faisait trembler toute la tour de la lanterne. J'ai parlé de Rhône tout à l'heure. On se souvient aussi de la femme au Casino Barrière. C'était les tout débuts de la femme. Ouais, c'était de sales garnements. Autant le dire.
On se souvient des backstage, notamment.
Avec Clara Luciani ou pas?
Je crois, ouais.
Je crois que c'était tout de moi. De toute façon, c'était au tout début.
Oui, oui.
Et mais je me souviens en 2018 de la fête à Véronique Sanson. Voilà.
Parce qu'on va parler de Véronique Sanson.
On va parler de Véronique Sanson. Voilà. Quelques mois avant la sortie de son album Duo Volatile, elle avait invité ici sur la scène qui ne s'appelait pas encore Jean-Louis Foulquier, Alain Souchon, Patrick Bruel, Trio, et aussi son fils Christopher Stills et le père de son fils, donc Steven Stills. Un sacré moment qui en rappelait un autre sur lequel tu avais travaillé sur cette scène du Saint-Jean-d'Acre en 94, comme il l'imagine. Vous aviez proposé à tout un tas de chanteurs à l'époque de venir faire des duos avec Véronique Sanson. Il y avait Marc Lavoine, il y avait Paul Personne qui d'ailleurs joue On m'attend là-bas, qui est le générique de Serge L'Émission. Il y avait Alain Chamfort, Les Innocents, Maxime Le Forestier, Yves Duteil. Alors j'étais pas là.
Michel Fugain.
Michel Fugain, que j'ai oublié dans ma liste.
Imouvrini aussi.
Et Imouvrini.
Improbable pour le temps.
C'est improbable.
Ouais, pour le temps est assassin.
Imouvrini d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais.
Un sacré aréopage, comme on dirait. Elle était un peu au fait de sa gloire, hein, faut dire, à l'époque. Elle avait sorti Sans Regret en 92, album live au Zénith en 93. Le concert des Franco qui a eu lieu en 94 va sortir lui aussi l'année d'après. Donc on va pouvoir écouter un vrai extrait de ce concert. Et il s'est terminé par le duo qu'elle aurait aimé faire, probablement, avec Michel Berger, qui lui avait, nous avait quitté en 1993. Et elle reprend donc Quelques mots d'amour, la chanson qui est tirée du cinquième album de Michel Berger, sorti en 1980. Un cinquième album qui s'intitulait Beau séjour, Véronique Sanson, au Francophonie de La Rochelle, parce qu'elle est chez elle ici.
Je peux pas partir sans vous chanter ça. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule? Parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capitaine, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus forte. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles histoires sur l'ironie du sort. Ces boîtes pour danser. Minuit se passe inanimé. J'écoute les battements de mon cœur répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer. Je me sens plus forte. Et je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Et je t'envoie plus belles histoires sur l'ironie du sort. De mon village à son malheur, où les docteurs greffent les cœurs. Les gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon
Véronique Sanson au Francofolie, c'était en 1994 pour ce concert Comme il l'imagine. Véronique Sanson d'ailleurs qui reprend la route hein, puisque on va la voir au Folies Bergère à Paris et puis au Cabaret Vert fin août. Didier,
tu as peut-être pas tout à fait précisé, même si ça avait l'air clair, mais ça c'est le truc des fans, que ce concert, en fait, le postulat de départ, c'était qu'il n'y ait que des hommes. Ah oui. On disait toujours les chanteurs à femmes, et on disait que vraiment Véronique, ça venait d'Alain Souchon, je crois d'ailleurs à l'époque, qui avait dit mais Véronique, c'est vraiment la chanteuse à hommes. Et, tu sais, comme il peut dire des trucs comme ça, des fois, avec sa nonchalance. Et c'est vrai que c'était un peu le challenge d'avoir des chansons qui sont quand même ultra féminines, chantées par des mecs. Et c'était aussi un peu exclusivement féminin, qui est une chanson de Véronique Sanson. C'était un peu le pari. Mmh. Voilà.
Ouais, parce qu'il y a des chansons où Véronique Sanson n'est pas sur scène ou seulement au piano, et c'est les hommes qui les interprètent.
Tout à fait.
Dans ce concert. En tout cas, elle reprend la route et on est bien content. On espère qu'on va l'accueillir bientôt au micro de Serge L'Émission, les garçons.
Oui, oui, oui. Puis, mais alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que cette tournée s'appelle Hasta Luego. Donc c'est...
On lui demandera.
Hein, pourquoi ?
Serge, L'Émission sur la Tsugi Radio.
Serge, L'Émission en direct du Café Pollen, juste au bord de la mer, comme ça, ici au Francofolie de La Rochelle. On revient au présent, voire même au futur, avec celui qui est depuis quelques années déjà le programmateur des Francofolies de La Rochelle, Pierre Poli. Bonjour Pierre Poli.
Bonjour.
Comment ça va à ce lancement de cette ligne, à la fébrilité du premier jour? Dans quel état d'esprit tu te trouves au moment où on t'accueille?
Je peux partager entre l'excitation, l'appréhension, un petit peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue où on sait que voilà, on est sur la première journée, c'est probablement celle la plus complexe, dans le sens où on a encore des petits ajustements à faire, ce genre de choses. Mais l'excitation, parce que là, on a ouvert les portes, les gens, le public arrive et on attend que les premiers concerts. Alors, ça a déjà commencé dans certaines salles, mais la grande scène démarre dans une heure, même pas.
Il y a un retour au grand format des Franco, hein, comme tous les festivals cet été, après deux éditions très, très réduites, mais qui ont quand même eu lieu. On sent aussi qu'il y a un appétit du public, parce qu'il y a déjà deux soirées complètes, il y a plein de concerts complets dans les théâtres, etc. Paris gagné aussi pour ce retour des Franco, de voir le public qui répond présent massivement pour ce retour du festival.
Absolument, et en fait, à vrai dire, même je pense que les 5 soirs de la grande scène seront complètes pour la première fois, en fait, en tout cas depuis un certain moment.
Et historique alors ?
J'ai pas l'historique total.
On prendra peut-être à Émilie ou à Gérard. Peut-être,
mais je crois que c'est une année record. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a une certaine appréhension ? Il y avait une certaine appréhension de se dire, est-ce que le public va être là à nouveau ? Est-ce que... Bon, parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu. Hein.
Ah oui, c'est sûr, en fait, ayant traversé ce qu'on a traversé. Sachant aussi que ça a été compliqué pour les salles, ça a été compliqué pour ceux qui ont tenté de résister, enfin qui ont résisté pendant ces deux années si particulières, on ne savait pas à quoi s'attendre. On est passé quand même par des phases de changement émotionnel et ça, c'est un peu les montagnes russes, quoi. À un moment donné, on pouvait plus assis debout, tout ça. On se dit, est-ce que le public va revenir aussi facilement? On sait quand même que le climat est un peu quand même, c'est pas, tout n'est pas gagné. Au Francofolie, on a la chance d'avoir une très belle année, mais on sait que par ailleurs, sur d'autres événements et d'autres festivals chez nos confrères, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a une offre qui a été aussi extrêmement dense sur la reprise, donc on a eu un an et demi de concerts condensés sur 8 mois avec les reports de dates, etc. Donc mécaniquement, on a eu beaucoup plus d'événements, donc une dilution du public. Voilà. Donc nous bizarrement, on a en tout cas œuvré pour. On va faire vraiment une année exceptionnelle. Et je pense aussi que c'est parce que c'est un festival qui vraiment fait partie du patrimoine culturel français, avec une éditoriale forte et une programmation qu'on a voulu plus ambitieuse peut-être cette année pour mieux marquer le retour du festival.
Oui. Moi je voulais ça simplement en tant que programmateur, quand on est dans le feu de l'action comme ça, est-ce que tu as le temps d'apprécier les concerts? Est-ce que tu as le temps d'aller voir les concerts et vraiment de te concentrer, ou tu as été pris par beaucoup de choses et tu...
Non, malheureusement. Alors, je m'attache quand même à essayer d'aller voir un bout de chaque concert, juste savoir sentir les choses, plus sentir aussi le rapport entre l'artiste et le public. Ça, c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus dans mon travail. En fait, c'est un peu le baromètre de mon travail. C'est la façon dont l'alchimie se passe entre l'artiste et le public. Donc ça, j'essaie d'aller le sentir à chaque fois. Et puis parfois, pour certains petits plaisirs, ou parce que finalement j'ai une fenêtre de tir qui est plus importante, que voilà, je reste un peu plus. Mais je peux pas assister à tous les concerts. C'est vraiment pas possible, malheureusement.
Didier Varro.
Oui, alors tout à l'heure je disais on ressasse nos vieux souvenirs d'anciens combattants, en ce qui me concerne en tout cas.
Oui.
Et c'est vrai que c'est très important qu'on accueille ce soir Pierre Poli, parce que tout à l'heure je vous parlais de mes meilleurs souvenirs, donc de mon pire souvenir qui était Pac-Man devant 150 personnes sur la scène du Saint-Jean d'Acre. Et Pierre Poli fait partie de ces individus qui ont fait aussi bouger le logiciel. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu French Tech, mais les paramètres qui font que ce festival continue de vivre une éternelle jeunesse. Parce que c'est ça en fait le pari, c'est comment se réinventer à partir de fondamentaux qui sont solides, qui par définition font que la maison tient, mais qui parfois font aussi que la maison vieillit. Et Pierre, il a réussi sans être modard, sans la ramener à sa juste place, à faire en sorte que justement le public continue à grandir avec ce festival, que les parents qui ont vécu les grandes années de Higelin, Sanson, Thiéphane, etc., aujourd'hui accompagnent leurs enfants ou leurs petits-enfants dans ce festival, et puis aussi en osant des paris sur des esthétiques qui sont à l'opposé des fondamentaux, précisément des francopholies. Je sais que c'est une difficile tâche, et je voudrais savoir comment toi tu l'as appréhendé le jour où on t'a proposé finalement d'être programmateur des francopholies, qui était aussi un peu un truc à l'opposé de ta géographie mentale.
Déjà, dans l'histoire des francopholies, il y a eu ces paris qui ont été faits par toi, Didier, par d'autres personnes qui ont fait des paris sur de la musique urbaine quand à l'époque ça faisait peur à tout le monde, qui l'ont fait sur de la musique électronique, du métal. Et moi, j'ai toujours considéré les francopholies, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et c'est comme ça que je l'ai appréhendé, comme étant une vitrine, une forme de vitrine en tout cas de la diversité de la production musicale française et francophone, francophile. Effectivement, j'ai une appétence en tout cas historique pour les musiques électroniques, le rock, le métal, mais pour autant je ne l'applique pas forcément systématiquement dans mon travail. Je ne le fais pas donc par conviction ou par envie personnelle, parce que je ne travaille pas de cette façon-là, mais dans l'envie de vouloir présenter effectivement des esthétiques qui ont leur place et qui aujourd'hui sont même, en tout cas pour l'urbain bien évidemment, dominantes dans la culture musicale. Donc en fait, ça se fait finalement assez naturellement. Voilà, en puisant dans l'histoire, en prenant l'actualité musicale, en essayant d'avoir de présenter aussi un festival qui sait se renouveler. Ça, c'est vrai que c'est une angoisse des programmateurs, c'est quel va être le public de demain. Donc là, il faut le repérer, savoir comment s'adresser à lui, savoir effectivement faire en sorte que le festival évolue avec son temps. Et ça, c'est l'angoisse, ouais, c'est l'angoisse.
Ce qui est le fait marquant de ces dernières années aussi dans la musique en France, c'est que les artistes sont massivement revenus aux Français, et que pour autant, ils sont pas enfermés dans un style, et qu'aujourd'hui, plein de gens s'expriment en français en faisant du rock, du métal, de l'électronique, de la pop ou de la chanson très classique. Comment tu l'as abordé, la programmation de cette édition, justement, face à ce déferlement d'artistes qui, tout style confondu, chantent en français?
C'est vrai qu'on s'attache à préserver majoritairement des artistes chantant en français, mais on ne s'interdit pas pour autant des artistes qui peuvent chanter en anglais ou en espagnol ou dans les langues sur lesquelles ils se sentent plus à l'aise, tant que ça a un lien, que ça raconte quelque chose pour nous en rapport avec notre ligne éditoriale, on se l'autorise. Après, il y a eu effectivement en 2022 énormément de propositions, énormément d'artistes de retour qui ont finalement préféré temporiser la sortie de leur album, leur tournée. Donc, après on a eu du coup un peu plus de choix peut-être cette année, et le retour du français, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'on a des francopholies aussi dans d'autres pays, portés par d'autres porteurs de projets
dans 7 pays,
voilà, avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Donc on se dit qu'on participe à donner écho aussi à cette langue sur d'autres territoires qui ont eux-mêmes leurs propres problématiques locales en termes de langue. Je pense à la Nouvelle-Calédonie où il y a 16 langues locales, à Montréal qui se bat chaque année pour préserver la langue française. Enfin, et je trouve ça assez passionnant aussi.
Franco de Spa, de La Réunion, Luxembourg, Bulgarie, je crois que j'ai dit tout le monde. Émilie Yakich, qui est la coordinatrice du festival, mais aussi la directrice de l'action culturelle et qui s'occupe du chantier des Franco depuis bien longtemps, nous a rejoint autour de la table. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Un petit peu même question qu'à Pierre. Là, ça se lance, ça démarre. Il y a commencé à avoir les pots d'inauguration à droite à gauche. Il y a de l'excitation à retrouver des Franco en grand format pour toi.
Bah oui, oui, et puis il y a les premiers spectateurs de la grande scène, de cette scène mythique Jean-Louis Foulquier qui viennent de fouler le sol voilà, de Saint-Jean-d'Acre, et ça c'est toujours un moment d'émotion qui est fort pour nous en fait, de les voir arriver, ces premiers festivaliers.
Il y a une articulation aussi entre le chantier des Francos et les Francofolies et la programmation générale des Francofolies qui, j'ai l'impression, se renforce d'année en année, où ils ont de plus en plus de place, ils existent de plus en plus fort, ces artistes. Cette sélection, bah, on a reçu Colline Rio tout à l'heure, on voulait évoquer Château Forte avec Patrice Bardot, je sais pas si on aura le temps d'écouter tous les disques, mais on voulait évoquer Château Forte, etc. Ce chantier des Francos, t'as l'impression qu'il monte en puissance d'année en année aussi, toi, Émilie?
Oui, 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 en effet. Alors, ils montent en puissance dans le festival, ça c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on travaille à ça depuis toujours, d'avoir cette volonté de les présenter à un plus large public, des pros, des médias, mais aussi des festivaliers. Et donc, il y a à la fois ce travail qu'on fait avec une programmation au Théâtre Verdière pour chacun d'entre eux, mais aussi ce challenge qu'on leur offre sur la grande scène où ils vont pouvoir, et ils sont nombreux cette année grâce au soutien de nos partenaires, notamment de la SCPP, de venir en fait faire deux chansons entre deux stars. Donc voilà, on aura ce soir Château Forte et la Daniva qui vont faire cet exercice, cette expérience. Mais pour nous, c'est aussi... Voilà, on sait que ce moment de rencontre entre ce public qui est nombreux, qui est curieux, on a la chance d'avoir un public qui est curieux à La Rochelle, qui vient là pour la découverte, mais voilà, on peut se permettre de les positionner à différents endroits. Et puis, cette période de Covid où on a imaginé des formes un petit peu alternatives, on avait créé les balades chantées partout dans la ville où on peut à la fois découvrir la vieille ville de La Rochelle et puis... tomber sur des impromptus musicaux, et ce sont là aussi des artistes du chantier qui se livrent en acoustique, et c'est tout aussi magique.
Il y a Zao, je crois, aujourd'hui, Zao de Sagazan, et c'est un format qui continue, hein, que vous avez voilà, innové pendant le Covid et qui continue. Patrice Bardot, tu voulais dire un mot, non, sur Château Forte?
Non, oui, Château Forte, ça fait partie un peu des artistes coup de cœur, je vais dire, du chantier des Francos cette année. Ils sont très atypiques, hein, c'est un duo qui sont composés de Lolali et Clément. Et ils ont sorti très peu de titres, donc j'en avais sélectionné un, je ne sais pas si on va le passer, qui s'appelle « À moitié chien ». Je trouve qu'ils ont une personnalité un peu à la fois réaliste, poétique, totalement atypique. Moi, je suis assez séduit par ce duo.
C'est bluffant. Enfin, ouais. Château Fort, c'est vraiment,
sur scène,
c'est vraiment bluffant, parce que ça mélange aussi un travail musical, électronique, qui vient sur ces textes poétiques. Et voilà, ils sont très... je pense que c'est deux artistes qui vont au rythme qui leur convient, et qui font ça avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir, sans avoir un chemin prédéfini, mais juste sans compromis jamais, quoi.
Oui, il y a une personne, ça m'a rappelé, j'ai passé tout à l'heure Raphaël Lanader, et c'est vrai que je trouve que c'est un peu dans la même esthétique, un peu voilà, tourmentico, romantico.
Didier Varro.
Oui, alors il y a évidemment ces prestations entre les stars. Il y a effectivement le Théâtre Verdière. Il y a le village franco-océan aussi, où il y a des artistes qui vont se produire, notamment Ziné, auquel je tiens particulièrement. Et puis, il y a la Sirène, qui aussi est un lieu. Alors, qui est un lieu qui part du réel pour beaucoup d'artistes qui viennent y faire leur résidence avant de partir en tournée, et qui, pendant les Francofolies, ouvre aussi des perspectives, d'autres perspectives. C'est peut-être ça aussi la réussite dans cette volonté d'ouverture vers d'autres publics et vers d'autres esthétiques, d'avoir trouvé un lieu qui incarne aussi cette ouverture. Ça va être le cas ce soir avec une scène électro, et puis plus tard en clôture avec une scène plus métal. Est-ce que c'est un festival dans le festival, ou est-ce que le festivalier qui va à la Sirène est aussi un festivalier qui fréquente la scène Jean-Louis Foulquier ou l'espace franco-océan?
Je pense que majoritairement, on est quand même sur des publics de niche. On essaie pour autant quand même de créer du lien sur le reste du festival, que ce soit, par exemple, aujourd'hui, on a French 79 qui est intervenu dans une conférence au village franco-océan. Dans les documentaires qu'on peut être amené à programmer aussi en fin de matinée, potentiellement qu'on ait des publics qui peuvent être intéressés en effet sur le reste de la programmation du festival, mais on va quand même, c'est vrai qu'on s'inspire un petit peu du lieu, de ce qui dégage. On est quand même plutôt historiquement sur une scène de musique actuelle, donc plutôt axée musique indépendante, j'aime pas trop dire, non, je sais pas, enfin rock en tout cas dans l'état d'esprit. Et surtout, l'idée c'est de co-construire cette soirée avec La Sirène. Donc en fait, on a nos aspirations et on fait un mélange de tout ça et on arrive à donner ça. Donc en effet, après, ça donne indépendamment des soirées qui pourraient sembler être hermétiques au reste de la programmation. Mais je pense qu'il y a des porosités, tout comme il y a des porosités avec un Sofiane Pamart qui finalement raconte quelque chose, qui fait de la musique classique et qui finalement travaille avec des artistes urbains. Sofiane Pamart qui d'ailleurs jouera ce soir avec Ento, fera un duo avec Ento. Voilà, donc finalement on les raccroche quand même, on raccroche quand même tout ça.
Il y a une porosité entre les scènes aujourd'hui qui existait peut-être pas il y a 10 ans.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on peut aujourd'hui écouter du métal et venir voir. Allez, je vais prendre un exemple extrême, Mika, pourquoi pas, ça peut aujourd'hui exister parce qu'il y a la génération random, que les usages de consommation sont plus les mêmes.
Le public écoute de tout.
Et que le public aussi écoute de tout, même si ce public de niche existe encore.
Émilie, je sais que la question environnementale, la éco-responsabilité des Franco, vous vous la posez depuis déjà quelques années. Là, on le vit très durement, ce qui fait vraiment très chaud. Évidemment, c'est une problématique quand on accueille autant de personnes sur un site. Est-ce qu'on se projette dans un avenir où peut-être les Franco changeraient de date? Est-ce que comment on imagine l'avenir d'un festival comme les Franco? Je sais pas, on en a parlé il y a quelques temps à Reims avec Christian Alex, de se dire peut-être qu'on fera des festivals plus l'été, qu'on fera autrement. Vous y réfléchissez depuis longtemps déjà à toutes ces problématiques?
Alors on réfléchit en effet depuis longtemps à toutes ces problématiques. Après, quand on a été confronté à cette question à cette crise sanitaire du Covid, je pense qu'on s'est tous posé la question et on a vu la réalité en fait de la mondialisation, on a vu la réalité de l'impact qu'on avait sur la planète et sur le vivant. Quand on est organisateur de festivals, le choix qu'on a fait, nous, c'est de se dire, en fait, dans le projet des Francofolies, c'est quoi nos engagements? C'est quoi qu'on a envie de défendre? Et qu'est-ce qui nous pousse à agir et à proposer ce qu'on propose? Et là, on s'est donné trois axes. On s'est donné l'axe d'être toujours ce festival qui soutient l'émergence. Donc quand on a été en format alternatif, mais finalement il n'y avait que des artistes du chantier des Francofolies qui étaient là en 2020, on a fait le choix en fait d'être un festival social et solidaire. On fait beaucoup d'interventions toute l'année en milieu scolaire, les gens ne savent pas forcément, et puis on voulait que sur le festival ce soit aussi possible. Donc on a imaginé ce projet avec le Secours Populaire, de mettre en place un principe de billet suspendu, c'est-à-dire de se dire en fait que voilà, il y a des gens, même si on est resté dans les tarifs de 2019, qu'on n'a pas voulu augmenter les prix d'accès et qu'il y a des spectacles gratuits, il y a des gens qui peuvent avoir envie de venir sur la grande scène mais qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc on a mis en place ce principe de billet suspendu, comme il y a les cafés suspendus ou les repas suspendus. Et puis le troisième axe en fait, c'est le travail avec nos territoires, sa protection, la question de la préservation de l'océan. Et donc je crois que d'avoir posé en fait ces blocs, ça nous permet de construire et de faire les choix qui nous semblent les plus pertinents ensuite. Après, je crois qu'on n'est pas... On n'est pas devin, on est aussi citoyen, on se rend bien compte des limites en fait et de l'impact que l'on a très concrètement. Et du coup, on en voit le retour tout de suite. Donc c'est des choses aussi dans lesquelles il faut qu'on soit à la fois acteur avec tout le monde en fait et qu'on subit. Comme tout un chacun.
Patrice ?
Non, l'avantage, le gros avantage des Franco, c'est de travailler sur une scène locale, donc de ne pas avoir d'impact vraiment de transport en faisant venir des artistes du bout de la planète pour un seul concert et qui repartent le jour même.
Bien sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est...
Donc ça,
c'est... Je peux le dire... Je peux le dire en tant que la coordination du festival, que ça c'est un avantage pour nous. On ne fait pas prendre d'avion aux artistes qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc déjà c'est un. Mais il y a plein de choses.
Mais même
sur lesquelles...
en France, est-ce qu'ils ont un comportement, est-ce qu'ils refusent de prendre l'avion? Est-ce que certains veulent prendre le train en plus?
Il y a des choses qui bougent. Je me souviens ici même au Café Pollen en 2019 ou 2018 peut-être, on faisait une première conférence sur ces sujets-là où on avait Camille qui était là avec sa productrice de spectacle et du coup qui nous expliquait en fait comment elle organisait ses tournées, comment en fait toute son équipe était équipée de gourdes. Ben, finalement, en 3 ans, tous les artistes arrivent équipés de gourdes et ils demandent tous des fontaines. Camille, elle faisait cette chose en fait où tous les demandes qu'elle a pour chaque prestation, et ben du coup son régisseur appelle avant la date date pour dire ben, on a des stocks pour ça, ça on l'a, c'est pas la peine de nous fournir. Ouais. Donc ça c'est des démarches qui sont, c'est des bonnes pratiques qui sont en train de se développer. Donc oui, on va, voilà, mais parce que du coup ça bouge aussi dans la société, c'est vraiment tout ça est très lié avec, avec ce que tout un chacun en vit.
Il y a moins de demandes de jet privé.
Alors, à ma connaissance, on n'en a jamais eu beaucoup en vrai sur les francos.
Ah, Didier n'est pas tout à fait d'accord. C'était une autre époque.
Je pense aussi que ça,
Pierre Poli.
Ça ne se situe pas que dans cette question de l'éco-responsabilité. Tout ça. Je pense que notre réflexion, elle a été aussi d'un. Enfin, je disais pas ça parce que vous disiez Émilie, mais ce que j'avais en tête par rapport au rapport qu'on a avec les artistes, les questions qui se posent aussi aujourd'hui beaucoup, c'est la parité, par exemple. Moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement d'avoir des artistes par l'intermédiaire de leurs agents qui me demandent ok, est-ce qu'il va y avoir des filles sur ce plateau ce soir-là, enfin voilà, pour l'instant on en est, et puis quand on reçoit des demandes qui sont trop fournies dans les loges et qu'on en écarte une partie, ça ne discute plus, c'est ok,
on discute plus sur les riders,
on discute beaucoup moins en tout cas qu'à une époque,
ça c'est bien, les riders de tournée qui sont des choses que demandent les artistes à trouver dans leur loge quand ils arrivent.
Voilà, donc au-delà de notre responsabilité éco-citoyenne, il y a vraiment ce côté plus aussi sociétal sur la façon dont est construit nos équipes, notre management responsable, etc. On s'est aussi beaucoup questionné là-dessus.
Pour la question de la parité, je précise quand même que demain, sur la scène Jean-Louis Foulquier, il y a que 4 femmes, Angèle, Juliette Armanet, Oshi et Poupi. Je voulais aussi parler de la soirée de vendredi, parce que j'ai ouï dire qu'un certain Booba a demandé à faire les franco. Booba va être là sur la scène Jean-Louis Foulquier. C'est pas rien non plus quand même d'accueillir un artiste de cette trempe-là, Pierre, sur un festival comme les franco.
Oui, alors ça s'est fait naturellement. C'est vrai qu'on est de plus en plus aussi en recherche de ça. C'est-à-dire que dans notre rapport avec les artistes et leurs représentants, on sent qu'il y a une envie partagée. Ça, c'est très important. On a à proposition égale, à artistes égaux, je pense qu'on va privilégier forcément des gens qui ont vraiment envie d'être là au franco, qui veulent partager ces idées avec nous, etc. Et effectivement, Booba, par l'intermédiaire de ses représentants, depuis quelques temps, en tout cas, évoque l'idée qu'il souhaiterait, que ça lui ferait ça lui ferait très plaisir si on l'invitait, etc. Donc on l'a entendu, on n'avait pas pu le faire tout de suite, 2 années de Covid sont passées, et puis on l'a dit, on va carrément lui proposer une carte blanche, quoi. Et on a su qu'il était extrêmement enthousiaste, et il s'est vraiment emparé de ça. Et il va proposer quand même 8 artistes avec lui. Enfin, il en a annoncé 7, mais j'en ai appris qu'il y en avait un 8e hier. Et du coup, il va pendant 1h45, quasiment 2h. Ils ont travaillé avec des assistants, avec des gens de son entourage, quel titre, etc. Enfin, ils ont vraiment, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup répété sur.
C'est pas une date comme une autre, quoi.
C'est voilà, une exclu, vraiment... presque. Il tourne pas là, en ce moment.
Il fait quelques festivals, mais je crois que c'est la première fois qu'il fait vraiment une carte blanche de ce type-là, en tout cas sur un festival.
Didier Varro. On a perdu Didier.
En tout cas, on a perdu son micro.
Voilà. Justement, quand on a des cartes blanches comme celle-ci, on va parler du hip-hop, parce que le hip-hop a toujours fait débat dans cette ville. On se souvient déjà au moment de la création des Hip-Hop Folies. Est-ce qu'on arrive à discuter avec Booba sur sa carte blanche, sur le contenu ? On sait que les dernières déclarations de Booba, très aimoriennes au contour... ont quelque peu entaché mon amour exclusif pour Booba et pour sa prose combat. Comment on fait ? Je pose une question piège ou...
Non, du tout. Là, on est plutôt parti du principe qu'il fallait que lui s'empare de cette proposition et qu'il en fasse quelque chose. On a plutôt tendance à laisser les artistes s'exprimer plutôt que de vouloir imposer un cadre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a appréhendé cette carte blanche. Et c'est comme ça qu'on l'a appréhendé aussi sur les précédentes. Voilà, on veut vous mettre à l'honneur. On a envie que vous puissiez vous exprimer votre art. On reconnaît la qualité de votre travail. Faites-vous plaisir, c'est le moment, quoi. Et donc, composez votre propre événement. Et vous avez 2 heures pour le faire. Et donc, ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai pas échangé particulièrement. Je savais qui pourrait être potentiellement invité, mais jusqu'à il y a un mois, je savais pas encore exactement ce qui allait se passer. Mais j'ai eu le détail de tous les titres, qui allait chanter à quel moment, etc. Et du coup, voilà. Mais on n'a pas échangé comme ça librement avec lui. On lui a vraiment laissé une carte blanche, quoi, principe de carte blanche.
Patrice Bardot. tu voulais intervenir. Non, non, tu me regardes. Bah, voilà. Alors, Émilie Yakiche, moi je vais intervenir sur le mignonisme de Philippe Catherine, évidemment, qui sont ces figures qu'il a créées. Philippe qui est un artiste incontournable et franco. Et puis aussi, j'ai remarqué dans le petit texte que, de présentation que Gérard Pont, le directeur de festival, fait dans le dossier de presse, il dit les franco, ce n'est pas un festival. Et est-ce que pourtant, c'est, pour autant, ce n'est pas le festival des festivals? Il n'y a pas quelque chose de la quintessence du festival au franco, Émilie?
Mais peut-être, que du coup, après, le terme est égal vaudé, donc il s'est dit les francophonies ne sont pas un festival. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que les francophonies, c'est plus qu'un festival. C'est une expérience. On a voulu cette année réaffirmer à la fois le fait qu'il y ait des concerts, on en a parlé pour tous les publics, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux, parce que dès le mois de décembre, et Pierre il a fait un super boulot, dès le mois de décembre quand on a annoncé les premiers noms, il y avait déjà les nuits métal, il y avait déjà les nuits électroniques donc, aux côtés de la grande scène, et donc là les gens se sont dit ah les franco c'est pour moi cette année. Et puis on a voulu aussi dans cette édition 2022 qui est un retour, se dire en fait toutes les petites formes qu'on a à côté, que ce soit les balades chantées, j'ai les voir qui chantent, les folies littéraires, elles soient affirmées comme folles rencontres, comme ces folles rencontres des francopholies qu'on aime proposer en journée. Et du coup, ces folles rencontres, c'est souvent une rencontre entre des personnalités, des comédiens, des auteurs de livres, mais c'est aussi parfois l'art contemporain, comme nous le propose Philippe Catherine, ou en tout cas son mignonisme. Et donc de retrouver dans les rues de La Rochelle, et surtout à l'office de tourisme de La Rochelle. Enfin, moi, je veux saluer, à la fois le travail de Philippe, parce qu'il est venu passer 3 jours ici à La Rochelle. Il a construit 2 grandes fresques avec fleurs de Meury qu'il a dessinées sur place aujourd'hui. Donc parce que c'est une exposition qui, pour remettre dans le contexte, a été créée au Bon Marché ce printemps. Et que finalement, Gérard Pont est passé par là, a dit mais que vont devenir ces œuvres plus tout à l'heure, demain, quand elles sont démontées au 25 avril. Et là, on ne sait pas encore pourquoi tu as une idée. Moi, je les veux à La Rochelle. Et donc là, je peux vous dire que personnellement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'était un exercice tout à fait nouveau pour nous que d'accueillir des œuvres. Ces personnages sont immenses. Il fallait les installer à différents endroits de la ville. Et donc Philippe, il nous propose, il s'est approprié aussi ce moment. Et donc, il y a vraiment des créations originales qui sont visibles à La Rochelle. Et ce que je voulais aussi saluer, c'était la nouvelle direction de l'office de tourisme de La Rochelle, parce qu'il nous a laissé les emplacements où habituellement il y a des prospectus en disant moi les prospectus je n'en veux plus, donc parfait, c'est l'occasion. Il est sorti début juin un guide de 3 jours à La Rochelle où on rassemble finalement toutes les infos prospectus, je vais dire rapidement, et donc ces espaces étaient libres et donc c'est devenu maintenant des espaces d'exposition, et ça je trouve génial qu'on puisse aussi agir à cet endroit-là quand on est les francopholies.
Allez, la dernière question de cette émission, elle est pour Patrice Bardot.
Tu parles du développement du festival. Est-ce qu'il y a une limite à ce développement de festival? Est-ce que...
En fait,
Sky is the limit, quoi.
Je ne sais pas s'il y a une... Enfin, la limite, c'est juste qu'on fait beaucoup de choses depuis très longtemps, mais on ne disait pas forcément qu'on les faisait. Enfin, ça fait, je pense, bien 15 ans que pendant 2 jours, il y a une trentaine de profs qui sont là en masterclass, parce que les francopholies sont aussi pôle de ressources éducation artistique et culturelle au niveau national. Et donc, il y a des profs de toute la France qui viennent et qui ont un parcours de concerts, de folles rencontres, de pratiques artistiques. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que l'on fait, parce qu'on est dans ces réseaux de la musique, de la culture, mais aussi de l'éducation nationale, un acteur du territoire, donc beaucoup de sollicitations. Et finalement, ce maillage qu'on a créé, il donne lieu à des choses qui se créent à l'occasion du festival, et que cette année, on avait envie d'affirmer. Voilà, ce n'est pas qu'une suite de concerts, les francopholies. Je crois que c'est ça qu'il a voulu dire, Gérard, ouais. Même s'il rajouterait, mais aller au concert, c'est vraiment de dire qu'il y a une complémentarité dans tout ça.
Je crois qu'il a voulu dire... puisqu'on a beaucoup lu le terme de festivalisation de la culture, qu'il s'inscrivait en contre, finalement en faux, contre cette festivalisation de la culture. Et pour répondre à la question de Patrice, moi qui suis un historique, il y avait cette idée justement de faire péter tous les plafonds de verre à une époque sur les francopholies. Et justement, une des vertus cardinales de ce festival, c'est d'être revenu à une forme de proximité, de faire que la scène Jean-Louis Foulquier, c'est 12 ou 14 000, pas un siège de plus, de faire en sorte que effectivement les artistes puissent s'inscrire dans une proximité avec les publics, dans des déambulations, dans des rencontres. Donc, de revenir à une forme, finalement, de proximité massive, mais proximité quand même.
Et de l'offrir à tout le monde. Là, actuellement, je pense que vient de se terminer une folle rencontre. Donc, j'ai La Mémoire qui chante, où l'invité était Pénélope Bagieux. Et aux côtés de Leslie Bourdin et Jovédine, qui a interprété les 5 chansons qui ont marqué la vie de Pénélope Bagieux et qu'elle nous avait confiées, ben, y a Wax qui a fait une surprise. Donc, voilà, ces rencontres sont super. On adore ça.
Voilà, on arrive au terme de cette émission, de ce Serge l'émission en direct des Francopholies de La Rochelle. Merci beaucoup, merci. Pierre Poli, Émilie Yakish. Merci de nous accueillir au Franco. On est très fiers à Tsugi Radio de venir ici au Café Pollen. Merci Patrice Bardot et Didier Varro.
Merci Antoine. Merci à toi.
On se retrouve à la rentrée pour le retour de Serge l'émission au studio du Parc de la Villette. Merci à Luc Leroy à la réalisation, à Marie qui était à la façade ici à l'accueil technique au Café Pollen, et puis également aux équipes presse, Elodie Mathieu, Guillaume Maury, Anne-Laure Bouzy. Et on se retrouve, on continue la tournée des festivals après sur Tsugi Radio, mais déjà on va un peu profiter de ces franco et de la chaleur océane de La Rochelle. Allez, bonne soirée à tous.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.